Et c'est vrai que dans le documentaire, moi aussi, ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est cette notion de dignité, parce que ça relève d'une perception très, très personnelle. Dans le documentaire, voilà, il y a pas mal de personnes qui échangent autour de ça, des personnes en situation de handicap, et elles expliquent, par exemple, le fait de recevoir des soins, ça peut être perçu par le regard extérieur comme une position de faiblesse, quelque chose d'assez dégradant, alors que pour elles, évidemment, leur dignité se situait ailleurs, quoi. Leur fierté se situait ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait réfléchir, me décaler, en fait. Et quand on baigne dans une société ultra validiste, tout est fait pour qu'on continue à pas percevoir, en fait, les violences sur les personnes concernées. Et puis aussi, faire le parallèle avec la lettre ouverte que vous êtes en train de constituer pour interpeller le président là, du conseil départemental de la Haute-Garonne, parce ouais. que tout est lié, en fait, car vraiment, lié. C'est systémique, évidemment.
Tout est lié. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le validisme, c'est le pendant du sexisme, mmh. du racisme. C'est-à-dire que c'est un système de discrimination, un système d'oppression et de domination qui est naturalisé. Et qui est le fruit des représentations qu'on a construites sur les femmes, sur les personnes handicapées, sur les personnes racisées, et qui consiste aussi à hiérarchiser les vies, finalement, à considérer qu'il y a des vies qui valent plus que d'autres, des vies qui sont plus agréables. Or, ce qu'on oublie à chaque fois, c'est que tout ça, ce sont des constructions sociales. Si on prend l'exemple des femmes, par exemple, pendant très longtemps, les femmes ont été présentées comme des hystériques, incapables de prendre des décisions, qui étaient comme des mineurs non émancipés, qui n'étaient pas capables d'apprendre, qui n'étaient pas capables d'étudier, qui n'étaient pas capables de faire les mêmes missions que les hommes. Et l'histoire a montré que les femmes, quand on leur en donne les moyens, peuvent mener exactement la même vie que les hommes, que les différences biologiques ne fondent pas une inégalité structurelle. Donc, sur le handicap, c'est la même chose. Si on prend, par exemple, les trisomiques, il faut savoir que qu'est-ce qu'on a construit comme imaginaire sur les trisomiques enfants. Et attention, soyons clairs, je ne soutiens pas ni la Fondation Le Jeune, ni tous ces réacs qui se servent des trisomiques pour s'opposer à l'avortement. Nous, la question, elle n'est pas là. C'est les femmes qui doivent choisir pour le corps des femmes. Trisomique ou pas trisomique, la question n'est pas là. Par contre, à partir du moment où on raconte aux femmes qu'avoir un enfant trisomique, c'est un problème, et que ce ne sera pas un enfant comme les autres, on construit l'idée que cet enfant, il ne fait pas partie de la même humanité que les autres. Et comme en plus, on a éliminé beaucoup à la naissance de trisomiques, ils sont peu présents dans l'espace public alors que c'est pas quelque chose qui est rare, la trisomie. Et les trisomiques, pendant des années, on les a enfermés dans des établissements spécialisés, des IME. On continue à le faire d'ailleurs, mais un peu moins. Et là aussi, on voit la différence sociale. C'est-à-dire que les catégories sociales les plus populaires sont celles dont les enfants se retrouvent en IME. Et ça non plus, c'est pas un hasard. Par contre, ceux qui arrivent à se battre, qui ont le capital social, culturel, éducatif et les moyens financiers pour se battre, pour accompagner leurs enfants en milieu ordinaire. On voit aujourd'hui des jeunes trisomiques présentés comme des personnes qui ont une déficience intellectuelle et incapables d'apprendre. On a aujourd'hui en France des jeunes trisomiques qui ont obtenu le baccalauréat. Et en Espagne, on a Pablo Pineda qui a obtenu une maîtrise. Et si on ramène ça, si on prend n'importe quel enfant considéré comme valide et qu'on ne l'envoie pas à l'école, il sera lui aussi en grande difficulté dans les apprentissages. Donc en fait, on a privé d'accès à l'éducation des gamins au nom de leurs différences, alors qu'ils ont juste besoin globalement de plus de temps que les autres pour apprendre et de pédagogie beaucoup plus adaptée. Donc ces gamins-là, on les a exclus. Les autistes, on a fait la même chose. Si on prend les autistes non-verbaux, non-oralisants, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas, c'est-à-dire ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas physiquement parler, c'est que sur le plan neurologique et sur le plan psychique, il y a des choses qui font qu'ils ne s'expriment pas à l'oral. Ces enfants-là, il y a, parce que là aussi on fait des catégories, il y a les autistes dits de haut niveau comme moi, enfin, je suis considéré comme autiste de haut niveau, et là encore une fois je trouve que c'est discutable comme terme parce que ça sous-entend qu'il y en a qui sont de bas niveau. Or qu'en fait, je pense qu'il y a des formes d'intelligence différentes. En tout cas, les autistes déficitaires, c'est comme ça que les nomme la médecine, qui sont non oralisants, on considère que leur place est en IME. Et moi, je vais vous raconter l'histoire du fils d'une de mes amies. Nicolas Joncourt est un jeune homme qui, aujourd'hui, est en deuxième ou troisième année de fac de sociologie. Il voyage dans le monde entier. Il est notre représentant dans le mouvement ENIL, le mouvement européen, ainsi qu'auprès des jeunes de l'ONU. Ce garçon, sa maman était enseignante quand elle l'a eu, et on lui a dit « Votre enfant est autiste, il parlera jamais, il fera jamais rien, donc dans son intérêt, mettez-le en IME. » Elle a refusé de le mettre en IME après avoir étudié le sujet, après avoir lu, après avoir vu ce qui se faisait à l'étranger. Et elle s'est battue comme un chien pour que son fils soit scolarisé. Elle a même été menacée de l'aide sociale à l'enfance parce que, soi-disant, elle maltraitait son fils en voulant lui donner une éducation. Mais si elle n'avait pas mené ce combat, Nicolas serait en IME, en train de faire des crises. Parce que ce que dit Nicolas aujourd'hui, c'est que ça a été une violence terrible pour lui d'être confronté à des adultes qui disaient qu'il n'était pas capable d'apprendre, que sa place était dans ces lieux de perdition, dans ces lieux de privation de liberté, dans ces lieux qui attirent en plus les prédateurs. Hein, parce que les agressions sexuelles auprès d'enfants handicapés, ça y va. Hein, c'est plus facile d'aller agresser un gamin qui ne parle pas qu'un gamin qui parle. Donc, tout ça, c'est des constructions. C'est-à-dire qu'on a construit les incapacités de ces jeunes. Ce ne sont pas ni l'autisme ni la trisomie qui les rend incapables. C'est ce que la société a mis en œuvre pour leur permettre de participer à la vie en société. Et derrière tout ça, il y a aussi le fait qu'on a construit l'idée que si on ne pouvait pas travailler, que si on ne pouvait pas participer à la vie en société comme tous les autres valides, notre vie ne valait pas la peine d'être vécue. On a construit l'idée aussi en faisant primer la solidarité familiale sur la solidarité nationale, que les personnes handicapées et âgées, parce qu'en fait on retrouve le même mécanisme avec l'agisme, que les personnes âgées étaient un poids pour la société, un poids pour leurs proches. C'est effectivement un poids, mais c'est un poids qui est organisé, qui est voulu. Parce que si on met en œuvre tous les moyens d'accompagnement à domicile, dans le lieu de vie que la personne a choisi, avec des personnels bien traités, parce qu'ils ne peuvent pas bien nous traiter si eux-mêmes ne sont pas bien traités, des personnels qualifiés dont on reconnaît les compétences, dont on reconnaît les qualités de savoir-être, parce que c'est ça qui est essentiel pour nous accompagner, les choses sont complètement différentes. Et donc, on nous a construit une sorte de culpabilité de nous dire que nous coûtions cher, de nous dire que nous étions un poids pour la société, de nous dire que nous n'étions pas rentables, que nous ne participions pas à la construction de la société par notre travail, alors que qui a organisé l'inaccessibilité du bâti, l'inaccessibilité du logement, l'inaccessibilité des transports? Comment voulez-vous aller travailler si vous n'avez pas d'accessibilité? Si vous avez été en IME et que vous n'avez pas pu apprendre à lire, écrire, compter correctement, que vous n'avez pas fait d'études supérieures? La société organise notre relégation et notre ségrégation, et après ça, elle dit que nos vies ne valent pas la peine d'être vécues, alors que tout ça a été construit socialement. Et ça, c'est le résultat du validisme. Parce que le validisme, ça vient d'un système productiviste et capitaliste, comme le colonialisme, comme le sexisme, comme le racisme. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des individus qui méritent des privilèges parce qu'ils servent le système et d'autres qu'on tolère, et qu'on tolère même de moins en moins en ce moment parce qu'on est dans une dérive eugéniste, clairement, dans notre société. Il faut quand même rappeler que quand les nazis ont éliminé les personnes âgées, les personnes handicapées, 700 000 hein, en Allemagne quand même, à partir de 39, si je ne me trompe pas, le programme s'appelait l'action T4. Et vous savez quel était le nom, enfin, en le traduisant en français, de cette action T4? Ça s'appelait la mort miséricordieuse. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, à partir de la fin des années 1800, on a construit l'idée qu'il y avait des vies qui valaient moins la peine que d'autres d'être vécues, qu'il y avait des vies qui étaient trop tristes, trop malheureuses. Et que ces vies-là, finalement, c'était faire un cadeau aux gens, c'était leur rendre service que de supprimer ces vies. Et on a construit aussi l'idée de l'indignité. Là aussi, c'est quelque chose d'artificiel. Parce que Il faut quand même rappeler que nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Même si notre société moderne veut nous faire croire que nous sommes tous des individus indépendants, d'abord on ne l'est pas quand on est un jeune enfant, et quand on vieillit, on peut redevenir dépendant de tiers. Mais en quoi cela a-t-il à voir avec la dignité ? Depuis quand ? Là aussi, pareil, on a construit le fait d'être une personne dépendante qui, par exemple, a besoin qu'on lui lave les fesses, comme un symptôme d'indignité. En quoi un geste naturel serait-il indigne ? En quoi ? C'est uniquement une construction sociale. Et si on parle de l'interdépendance des individus les uns avec les autres, et c'est aussi ce qui fait la richesse de notre société, et qu'on oublie trop souvent, moi je pourrais parler de la dépendance de tous les gens qui sont pas foutus d'aller acheter à bouffer et qui se font livrer par Uber. Pour autant, ils ne considèrent pas qu'ils ont perdu leur dignité parce qu'ils font appel à Uber. Pourtant, si on s'interroge sur le parallèle à faire entre les deux, je trouve qu'il y a quand même des proximités.
Quand vous regardez les chiffres au Canada, par exemple, oui, où désormais 8% des morts sont morts de l'euthanasie,
oui,
est-ce que ça ne vous paraît pas inquiétant ?
Mais ça pourrait être 15%, 20%, ça répond à quoi ? On est en train de parler de personnes qui vont mourir. On n'est pas en train de parler de tuer des personnes âgées ou des personnes qui seraient avec une dépression suite à un chagrin d'amour. On parle de personnes qui vont mourir. Donc oui, on sait bien que ça concernera 2 à 3% des décès. Il faut le ramener aussi au nombre de décès. Mais il suffirait d'une seule personne qui demanderait à être accompagnée
dans
le cadre
de la Canada disait que ce sera 2 à 3%. C'est finalement aujourd'hui,
oui,
8.
Mais je vous dis, demain, ça pourrait être 10. En quoi ce serait choquant ? On parle de personnes qui vont mourir et qui ne trouvent pas de réponse aujourd'hui. Voilà, dans cet accompagnement, on parle de maladies incurables, graves et incurables, avec des souffrances réfractaires. C'est vraiment cette interdiction aux Français de disposer d'eux-mêmes. Ils ne seraient pas assez malins, assez intelligents pour comprendre un texte ou pour savoir ce qu'eux-mêmes décident face à la maladie et aux souffrances. Je ne les juge pas, ne les jugeons pas et acceptons d'entendre cette parole même face à la maladie.
Jonathan Denis, vous êtes le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et évidemment extrêmement favorable, on l'a bien entendu, à ce texte.
Et la force de la DMD ? Parce que si on reprend les écrits historiques des fondateurs de la DMD, ce qu'ils prônaient, ce qu'ils défendaient, c'était le fait que c'était indigne d'être dépendant et qu'il fallait mourir avant. C'est une vision hédoniste de la mort qui est, je dirais pas sacralisée, parce que là aussi, ça rejoint une forme de peut-être d'une forme de religion, de dire que y avait des écrits, voilà, avec une jeune femme à mes côtés, mourir comme ça. Enfin, c'est les gens se sont fait un film. Et puis, les écrits de la DMD, c'était de dire que c'est indigne de se retrouver à avoir les sphincters qui lâchent. Ben oui, mais c'est la nature. Et même quand on est valide, ça peut arriver avec une bonne chiasse. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que pour autant, on a perdu sa dignité ? Là, encore une fois, c'est une question de représentation. Je rappelle quand même qu'à une époque, les rois faisaient leurs besoins devant tout le monde. C'était naturalisé. À l'époque, on ne considérait pas que utiliser ces sphincters était quelque chose qui posait problème. Donc tout ça, c'est toujours des questions de représentation.
Contactez ma CAF.
Pour être mis en relation avec un conseiller, tapez 1.
Et donc, oui, pour en venir à... On parlait du conseil départemental de la Haute-Garonne. Alors, effectivement, j'ai évoqué à plusieurs reprises la nécessité pour pouvoir bien vivre les situations de handicap et de maladie invalidante d'être accompagné à hauteur des besoins. Et là-dessus, la politique française, elle est construite de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il y a la CNSA qui recueille le fruit des journées de travail gratuites, qui concerne d'ailleurs que les salariés, et cet argent est reversé aux départements et aux ARS, et les départements ont la gestion de ce qu'on appelle les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, à l'échelle de chaque département. Et ces maisons départementales des personnes handicapées, elles sont organisées avec des salariés qui sont délégués par le département, par l'État, etc., qui sont en nombre insuffisant, qui travaillent dans des conditions très difficiles, et qui sont chargés d'évaluer les besoins des personnes handicapées. Alors d'abord, on va être clair, le cadre légal tel qu'il existe aujourd'hui est extrêmement limitatif, puisque en dehors des personnes qui ont besoin d'une assistance 24 heures sur 24, ce qui est accordé, c'est essentiellement des heures pour des actes dits essentiels, ce qui m'a fait dire pendant des années les textes légaux permettaient par exemple de donner à manger à quelqu'un la petite cuillère, la cuillère ou fourchette, mais ne permettaient pas de préparer le repas ni de faire les courses. Donc je ne voyais pas ce que la personne pouvait manger d'autre que sa cuillère. Pareil, les textes prévoyaient qu'on puisse faire la toilette à quelqu'un, mais qu'on ne puisse pas nettoyer le linge. Ça aurait fini en syndrome de Diogène si on s'appliquait sur les textes. Bon, ça a un petit peu évolué, ça. Mais en tout cas, on était déjà dans un cadre extrêmement restrictif. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Ben, depuis quelques années, petit à petit, on voit des attaques de plus en plus importantes des départements et de l'État contre les droits des personnes handicapées. Et aujourd'hui, en Haute-Garonne, donc département présidé par un socialiste, Sébastien Vincini, à quoi on assiste ? On assiste à une instrumentalisation et un dévoiement du fonctionnement de la CDAPH, puisque comme je vous l'ai dit, la MDPH instruit les demandes, et après il y a ce qu'on appelle la CDAPH, c'est-à-dire la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est une commission composée d'un tiers de représentants de l'État, des services de protection sociale, des organisations syndicales et patronales, un tiers de représentants du département et un tiers de représentants de personnes handicapées. Alors d'abord, on a la difficulté dans beaucoup de départements que ces places de représentants des personnes handicapées sont squattées par des organisations qui ne sont pas des organisations de personnes handicapées, mais qui sont des organisations pour les personnes handicapées, des organisations prestataires de services ou gestionnaires d'établissements spécialisés. Donc des personnes qui sont, comme le dénonce l'ONU, en conflit d'intérêts par rapport à la défense des droits des personnes handicapées. Ça aussi, c'est une spécificité française. C'est-à-dire, et c'est peut-être aussi ce qui explique beaucoup le retard de la politique française du handicap à l'échelle européenne et mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui nous représentent, c'est comme si demain, Orpea, Corian et les autres, les poids lourds des EHPAD, disaient ben, « nous sommes les représentants des personnes âgées ». Ça choquerait. Et pourtant, quand il s'agit des personnes handicapées, là aussi, on a construit l'idée que l'APF, l'UNAPI, la PAJH, l'ADAPT et toutes ces entreprises gestionnaires étaient les représentants des personnes handicapées, alors qu'ils se contentent d'envoyer quelques personnes handicapées sans formation pour siéger dans beaucoup d'instances, mais sans défendre réellement les droits des personnes handicapées. Donc cette CDAPH, moi j'en suis membre depuis 2009, elle a été créée en 2006 à Toulouse, j'avais suivi sa création, je participais déjà au collectif interassociatif Handicap 31, et nous avions réussi à nous fédérer et donc à avoir un peu un poids et un certain rapport de force avec le département. Et notamment, nous avions obtenu que un des avantages accordés au département par le législateur en 2005 avait été de lui dire ben, quand il s'agit de statuer sur la PCH, puisque donc la CDAPH est là pour prendre les décisions. Et la loi dit que chaque décision doit être prise individuellement, c'est-à-dire qu'on est censé étudier un par un l'ensemble des dossiers. Dans la réalité, ça ne se fait jamais. Mais nous avions obtenu, malgré tout, que chaque fois que quelqu'un demandait à venir en CDAPH, et nous on faisait de la publicité sur le fait que les gens avaient le droit de venir, et que c'était même c'était un des fondements de la loi de 2005, c'est-à-dire ce qu'on appelait le droit à un débat contradictoire, c'est-à-dire qu'enfin les personnes, par rapport à l'époque de la Cotorep, pouvaient recevoir avant qu'il y ait une décision, pouvaient recevoir une proposition dans laquelle l'équipe pluridisciplinaire expliquait quelle réponse elle proposait et sur quel fondement, à la demande d'AH, de PCH, à la demande d'aide humaine, à la demande d'aide technique, d'aménagement du logement, d'accompagnement de la scolarité des enfants. Ce PPS et ce PPC, qui est le document qui présente la proposition, est un document obligatoire que les gens ne reçoivent plus. Moi, je le dis, exigez d'avoir votre PPC et votre PPS. Et donc, les personnes reçoivent une proposition, et là, elles ont 15 jours pour répondre, et si elles ne sont pas d'accord, elles peuvent demander à venir devant la commission. Pourquoi ? Pour pouvoir se défendre, pour pouvoir expliciter, et pour que la commission leur dise, ben voilà, nous, on a proposé, enfin, la MDPH, on a proposé ça parce qu'on s'est basé sur tel texte et sur tels éléments de votre dossier médical et social. Sauf que ça, déjà, ça dysfonctionnait. Mais on avait obtenu que quand même la CDAPH puisse statuer et que nos voix comptent. parce qu'il y avait un article du Code de l'action sociale et des familles qui prévoyait que quand il s'agissait des décisions sur la PCH, donc la prestation de compensation du handicap, qui est financée aujourd'hui majoritairement par les départements et partiellement par la CNSA, que pour ces décisions-là, le département soit majoritaire, suivant le principe, c'est le payeur, donc il doit avoir la main. Sauf que ben, ça induit effectivement des problématiques de départements qui cherchent à faire des économies et qui nous prennent pour des variables d'ajustement. Et donc, le département de la Haute-Garonne, nous avions obtenu par le rapport de force qu'il n'applique jamais ce règlement, cette possibilité qui était donnée par la loi, ni même que la présidente ait une voix prépondérante. Ça n'était quasiment jamais arrivé. Et en contrepartie, on avait accepté de nous contenter de nous abstenir sur les listings, c'est-à-dire les décisions prises sans que les dossiers soient examinés un à un. On avait pourtant demandé, mais ça on ne l'avait pas obtenu, qu'au moins toutes les décisions de refus soient passées une par une. On ne l'a jamais obtenu, mais on avait trouvé vaille que vaille un certain équilibre par la force des associations réunies. Et le problème, bah, c'est que ces dernières années, il y a eu des changements dans les représentants associatifs, il y a eu des nouvelles personnes qui maîtrisaient moins bien le sujet, ce qui est normal aussi. Et puis, aussi, le département et l'État se sont mis à choisir des associations hautes, des associations tierces qu'ils financent et qu'ils tiennent. Il faut quand même dire ça aussi comme réalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des associations qui sont censées venir défendre les droits des personnes handicapées en CDAPH, mais qui, pour préserver leur financement, à tort, parce que c'est pas... je veux dire, il y en a qui se laissent pas faire et qui ont préservé leur financement. Mais qui sont complaisants avec la MDPH et qui ont tendance à voter avec la MDPH. En tout cas, toujours est-il que le département a durci les conditions d'accès aux droits ces dernières années, et notamment au travers de deux choses. D'une part, en limitant l'accès à la PCH, en refusant des heures d'aide humaine quand il peut y en avoir, en limitant le nombre d'heures humaines et en faisant croire aux gens que ce qu'on leur donnait correspondait au cadre légal alors que ce n'est pas le cas. Et puis, depuis plusieurs mois, en refusant des PCH 24 heures sur 24 quasi systématiquement. Et surtout, ils nous ont proposé en 2024 un règlement intérieur. On a engagé des discussions avec eux et en fait, le département est passé en force fin 2024, a fait voter un règlement intérieur dont une partie n'avait même pas été soumise aux associations et qui incluait des choses illégales et notamment qui pérennisait le principe de décision sur listing, mais qui prévoyait aussi que la présidente pouvait éjecter qui elle voulait de la CDAPH, qu'elle pouvait décider toute seule, qu'on n'avait pas le droit de critiquer la CDAPH, qu'on n'avait pas le droit de mettre en cause le fonctionnement, etc. Autant on n'a pas le droit effectivement d'évoquer les situations des personnes à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en aucun cas, quand on évoque une situation, moi j'évoque parfois des situations, mais elles sont anonymisées, je ne dis pas il s'agit d'un tel et je ne donne pas suffisamment d'éléments pour que des tiers puissent identifier ces personnes. Donc ça, effectivement, qu'il y ait un secret absolu sur la situation des personnes, c'est extrêmement important. Par contre, qu'on puisse dénoncer le fait que la présidente s'arroge des voix qu'elle n'a pas, le fait que la directrice de la MDPH puisse voter alors que normalement elle ne devrait pas voter, le fait que le département s'est organisé pour faire siéger des agents du département qui ne sont pas nommés de manière nominative dans l'arrêté de nomination, histoire de se donner plus de moyens pour avoir le nombre pour pouvoir écraser les décisions de la CDAPH, ça c'est illégal. Et il y avait plein de choses, donc on a saisi le tribunal administratif d'une requête pour demander l'annulation de ce règlement intérieur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de communiquer grandement sur certaines situations au CDAPH. Je me rappelle une vidéo qui a été vue plus de 60 000 fois cet été, d'une dame qui était venue, qui avait une fibromyalgie depuis 15 ans et à qui on refusait obstinément l'AH, alors qu'elle correspondait parfaitement aux critères. Et quand je dis qu'elle correspondait parfaitement aux critères, il faut savoir que je suis reconnue aujourd'hui comme une spécialiste du droit MDPH. Je suis même, j'ai été recrutée récemment comme enseignante vacataire pour donner des cours sur le droit MDPH en milieu universitaire. Ça, c'est pour la légitimité, pour ceux qui en douteraient.
Je viens vous parler d'un double scandale qui frappe en ce moment les femmes handicapées de Haute-Garonne. D'un côté, le Parti socialiste local vote à l'Assemblée nationale pour la loi Aide à mourir, une double peine mortifère pour les personnes handicapées et malades. De l'autre, ce même Parti socialiste, aux manettes du Conseil départemental, organise le recul systématique de nos droits sociaux. Depuis février, nous dénonçons le passage en force du président socialiste Vincini. Il utilise un 49-3 pour imposer ses décisions à la MDPH. Résultat, nous avons dû, le 6 mars dernier, nous sommes 24 membres de la CDAPH, l'organe décisionnel de la MDPH, à nous être opposés et à avoir bloqué 1905 dossiers, 1573 adultes et 332 enfants handicapés qui sont sans décision à cause du refus de M. Vincini d'échanger avec nous. Et donc ce sont les femmes handicapées, ce sont elles qui se retrouvent le plus souvent seules face à la dépendance et à la maladie, abandonnées par leurs conjoints sans aide, sans droit.
On est confronté à des équipes pluridisciplinaires qui ont visiblement comme consigne, et une présidente de CDAPH, comme consigne de limiter l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'on en arrive, alors que c'était jamais arrivé il y a des années, à nous raconter n'importe quoi sur les critères pour tenter de tromper les nouveaux représentants en CDAPH qui ne maîtrisent pas le cadre réglementaire comme moi qui le pratique depuis 25 ans.
Pour le budget, là, l'idée, c'est vraiment de faire des économies.
De faire des économies. Et ça veut dire quoi, des économies? Ça veut dire quoi comme conséquence pour les personnes handicapées? Je vais prendre deux exemples qu'on a cités dans notre... Puisque tout ça a abouti à ce que 24 membres de la CDAPH lance une lettre ouverte à l'attention du président Vincini, hein, une lettre qui fait 6 pages, dans laquelle on récapitule tous nos griefs, le fait qu'on est pieds et poings liés, maintenant qu'on est là devenus des spectateurs des décisions et que, par notre présence, si on ne dit rien, on cautionne ce fonctionnement illégal. Donc on a décidé de le dire publiquement, et je peux vous dire que ce n'est pas simple, parce qu'on n'est pas tous armés de la même manière pour dire publiquement à quel point les autorités sont en train de sacrifier les personnes handicapées. Et donc on a fait cette lettre ouverte et un communiqué qui a été lancé lundi, dans lequel on demande au président Vincini de nous recevoir rapidement, parce qu'on voudrait savoir si c'est bien, comme on le craint, une décision prise par lui et qui s'impose à tout le monde, ou si il y a des conseillers départementaux qui ont agi dans son dos et qui bafouent les droits des personnes handicapées. Donc en tout cas, nous, ce qu'on lui demande, c'est de revenir à un fonctionnement conforme au cadre réglementaire, qui n'est pas un fonctionnement satisfaisant, mais qui est le minimum. Donc aujourd'hui, on est en train d'organiser, avec la complicité des départements, avec la complicité des organisations politiques de droite, bon, chez qui le validisme est naturel, hein, puisque le système capitaliste est leur credo, mais la gauche est censée être une gauche qui défend la fraternité. Enfin, moi, je sais que le département affiche à son fronton l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme. Mais quelle est la réalité de la politique qu'il mène? La réalité de la politique qu'il mène, c'est de mettre en danger les personnes handicapées et de les pousser au désespoir.